إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, bienvenue à vous pour cette deuxième conférence lors de ce séminaire sur la famille musulmane. Nous avons vu dans la conférence d'hier certains points concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son foyer. Nous allons voir aujourd'hui les bases de la fondation d'une famille heureuse. En effet, la législation de l'islam a donné une grande importance à la famille, et ce, car la famille, comme on l'a déjà mentionné, est la première pierre à l'édifice de la société. Donc, si la famille est heureuse, c'est toute la société qui sera heureuse. Et il est important pour nous de savoir que la famille ne peut être heureuse que si elle est fondée sur des bases fermes et authentiques. Plus la famille s'accrochera à ses bases, plus elle sera heureuse, et plus la famille négligera ses bases, plus la personne sera dans le malheur. Wallahu al-musta'an. Donc, il est important pour nous de prendre connaissance de ces bases afin de les mettre en pratique et d'obtenir le bonheur ici-bas ainsi que dans l'au-delà par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je tiens tout d'abord à signaler que l'on ne va pas mentionner ici l'ensemble des bases pour fonder une famille heureuse. Mais on va simplement se contenter de mentionner quatre points qui font partie des bases les plus importantes de la fondation de la famille heureuse. La première base pour fonder une famille heureuse, c'est le mariage. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a encouragé le mariage dans de nombreux versets dans le Coran, et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans de nombreux hadiths dans sa sunnah. Et on va mentionner ici, inshallah, quelques textes nous démontrant les mérites du mariage. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le mariage dans son livre. Il a dit subhanahu wa ta'ala, فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. Épousez celles qui vous plaisent parmi les femmes. Il a dit également subhanahu wa ta'ala, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ. Et mariez les célibataires parmi vous. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux tuteurs de marier ceux qui sont sous leur responsabilité parmi les célibataires, hommes et femmes. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ici de les marier. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné le mariage, comme le rapporte Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Ô vous les jeunes, celui parmi vous qui en a les capacités, alors qu'il se marie, il sera ainsi plus à même de baisser son regard et de préserver sa chasteté. » Et celui qui ne peut pas, alors qu'il jeûne, cela sera pour lui une protection. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à celui qui en a les capacités, c'est-à-dire qui a les moyens de se marier, de s'empresser de le faire, afin d'être plus à même de préserver sa chasteté et de baisser son regard. Puis il a orienté celui qui n'en a pas les capacités ou qui n'en a pas encore l'opportunité de jeûner, afin que cela soit pour lui une protection contre les passions interdites. Également, parmi les textes démontrant les mérites du mariage, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Et nous avons certes envoyé des messagers avant toi, c'est-à-dire avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous leur avons donné des épouses et des descendants. Donc on voit à travers ce verset que le mariage, il fait partie de la sunna des messagers. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé que le mariage fait partie de sa sunnah. Un jour, il a entendu qu'une personne disait qu'il ne se marierait pas avec les femmes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: moi, je me marie avec les femmes et celui qui se détourne de ma sunnah n'est pas de moi. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahum Allahu ta'ala. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mariage fait partie de ma sunnah. Quiconque se détourne de ma sunnah ne fait pas partie de moi. C'est-à-dire que c'est un désaveu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cette personne qui refuserait de se marier. Et ce hadith est rapporté par Ibn Majah d'après Aïcha radiallahu ta'ala anha, et il a été authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Également, parmi les mérites du mariage mentionnés dans les textes, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le mariage de la plus belle des manières. Il dit subhanahu wa ta'ala au sujet des époux, « Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. » Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. On voit dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que la relation entre les époux est telle la relation entre le corps et le vêtement. C'est-à-dire qu'ils ont mutuellement besoin l'un de l'autre, de la même manière que le corps a besoin de vêtements. En effet, le corps a besoin de vêtements pour se réchauffer, pour se protéger du froid, mais aussi pour couvrir sa aura et pour s'embellir. Donc de la même manière, l'homme a besoin de l'épouse et la femme a besoin de l'époux. Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que le mariage faisait partie des signes et des preuves de sa seigneurie. En effet, il nous a informé que les époux s'aiment mutuellement et que chacun d'eux trouve la tranquillité auprès de l'autre. Et ceci fait partie de ses signes, subhanahu wa ta'ala. Il a dit dans son noble livre, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité auprès d'elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Ceci fait donc partie des signes et des preuves de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans des hadiths authentiques que le mariage représente la moitié de la religion. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se marie a certes complété la moitié de la foi alors qu'il craigne Allah concernant la seconde moitié. Et qu'est-ce que signifie ce hadith? La réponse est que le mariage est la cause la plus importante pour que la personne préserve sa chasteté. Et le fait de préserver sa chasteté, c'est une des deux qualités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith, et il a garanti le paradis de celui qui se pare de ses qualités. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui préserve ce qu'il y a entre les deux extrémités de sa bouche, c'est-à-dire sa langue, et ce qu'il y a entre ses jambes, c'est-à-dire ses parties intimes, qu'il préserve sa chasteté, il entrera au paradis. Donc, en se mariant, la personne a accompli la moitié de ce hadith, en préservant sa chasteté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il ne lui reste plus qu'à compléter l'autre moitié en préservant sa langue des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi les choses qui nous montrent les mérites du mariage en islam, il y a le fait que de nombreux textes sont venus pour mettre en garde et interdire ce qu'on appelle « at-tabattul » en arabe, qui désigne le fait de rester célibataire avec l'intention de se libérer pour l'adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela, comme cela est rapporté dans des hadiths authentiques. Et également, il nous a interdit de nous assimiler aux moines, les moines des chrétiens, qui s'interdisent le mariage ainsi que la descendance. Enfin, parmi les mérites du mariage que l'on va mentionner ici, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire augmenter le nombre de membres de sa communauté. En effet, il a dit dans le hadith authentique, rapporté par Marqal ibn Yasar, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Épousez la femme féconde et affectueuse, car je serai fier de votre nombre face aux autres communautés au jour de la résurrection. » On voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé au mariage afin que les membres de sa communauté augmentent. Donc en résumé, on voit que le mariage, il a de nombreux intérêts. Il a des bénéfices immenses. Et parmi ses plus grands bénéfices, il y a le fait qu'en te mariant, tu suis ainsi la voie des prophètes et des messagers, alayhim salatu wa salam. Et spécifiquement, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également parmi les bénéfices du mariage, il y a la préservation de l'espèce humaine, par le fait qu'elle se reproduise. Également parmi ses bénéfices, il y a le fait que cela va t'aider à baisser le regard et à préserver ta chasteté. Également dans le mariage, la personne, elle va trouver l'apaisement de l'âme et la stabilité par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, il y a dans le mariage l'augmentation des membres de la communauté de l'islam ainsi que de nombreux autres bénéfices. Et parmi ces bénéfices, il y a le fait que le mariage
ferme la porte des turpitudes. En effet, celui qui se marie, comme on l'a dit, il va être plus à même de baisser son regard et préserver sa chasteté. Cela va ainsi fermer les portes à la multiplication des turpitudes dans la société. Il y a d'autres nombreux bénéfices du mariage, mais il serait trop long de tous les mentionner ici. Quoi qu'il en soit, il est important de savoir que ceci fait partie des plus grandes causes de la fondation d'une famille heureuse. Certains pourraient se dire, mais bien évidemment, que le mariage fait partie de la base de la fondation d'une famille. Mais je tiens à préciser cela suite à la multiplication dans la communauté des relations illégitimes et hors mariage. Et il n'y a pas de doute que celui qui emprunte cette voie, la voie des relations illégitimes et des relations hors mariage, il ne pourra pas trouver le bonheur sur ce chemin. La communauté est unanime sur l'interdiction de ces relations entre l'homme et la femme, et que rien n'est permis parmi ces relations. Les relations ne sont permises que de manière légiférée, comme par le mariage. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela. Notamment, nos frères et sœurs célibataires doivent prendre garde à tout ce qui pourrait mener à des relations illégitimes et hors mariage entre l'homme et la femme. Car il y a en ceci de nombreux méfaits. Et parmi les plus grands méfaits, il y a la propagation des turpitudes au sein de la société. Également, il y a la perte de la femme de ses droits. Car sans le mariage, les droits de la femme ne peuvent en aucun cas être préservés. Donc celle qui recherche l'honneur, celle qui cherche à être préservée, elle doit prendre garde à cela et s'éloigner des relations hors mariage. Et il en est de même pour nos frères. Wallahu al-musta'an. La deuxième base de la fondation d'une famille heureuse, c'est que tu saches qu'il ne suffit pas de te marier pour être heureux. En effet, il y en a certains qui ont tendance à idéaliser le mariage. Et ils pensent que le simple fait de se marier, c'est bon, ils seront heureux. Ils sont malheureux lorsqu'ils sont célibataires, et ils pensent que le mariage sera la solution à l'ensemble de leurs problèmes. Il est obligatoire pour toi que tu saches qu'il ne suffit pas de te marier pour être heureux. Mais pour être heureux, tu dois veiller à fonder une famille pieuse et vertueuse sur la droiture. Et ce, en suivant les préceptes de la religion de l'islam. Et parmi ces préceptes, tout d'abord, il y a le fait de choisir un conjoint pieux. En effet, l'homme, lorsqu'il recherche une épouse, la première qualité qu'il doit regarder chez elle, c'est la piété. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on se marie avec la femme pour quatre choses. C'est-à-dire que généralement, ce que les hommes recherchent chez les femmes, ce sont quatre choses. Pour ses biens, pour sa lignée, pour sa beauté ou pour sa religion. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une orientation. Et il a dit, choisis celle qui a de la religion, sinon tes mains seront pleines de poussière. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahumallah d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les gens diffèrent dans la recherche de leur conjoint. Certains ne recherchent chez la femme que la beauté. D'autres ne recherchent que la lignée. D'autres ne recherchent que ses biens. Et d'autres recherchent la religion, c'est-à-dire une femme pieuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de choisir l'épouse vertueuse. Pourquoi ? Car la femme vertueuse, c'est celle qui va aider le musulman dans ses affaires religieuses et dans ses affaires mondaines. La femme vertueuse, c'est celle qui va t'aider à éduquer tes enfants d'une manière correcte. La femme vertueuse, c'est celle qui va te rappeler à l'ordre lorsque tu t'écartes du droit chemin. La femme vertueuse, c'est celle qui va patienter avec toi dans les difficultés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si le musulman, il trouve une femme vertueuse, il doit s'empresser de se marier avec elle. Il ne doit pas la délaisser. Sinon, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tes mains seront pleines de poussière. Et ceci est une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre celui qui néglige cette recommandation qu'il nous a adressée dans ce hadith. Et la personne vertueuse, c'est celle qui s'affranchit de ses devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que de ses devoirs envers ses créatures. Et si l'homme trouve cette femme, il doit savoir que ceci fait partie des plus grands trésors de ce bas monde pour l'homme. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet des meilleurs biens de ce bas monde. Qu'est-ce qu'il a répondu sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, le meilleur des biens, ce sont une langue qui se rappelle, qui fait du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, un cœur reconnaissant et une femme croyante qui va aider l'homme dans sa religion. Malgré cela, malgré l'importance pour l'homme de rechercher la femme pieuse, il n'y a pas de mal à rechercher en parallèle de cela une femme vertueuse et dotée d'une certaine beauté. Il n'y a pas de mal en cela à réunir entre la piété de la femme et sa beauté. Cependant, l'erreur que font nombre de personnes, c'est de limiter leur recherche à la beauté de la femme. La beauté, elle doit venir après la religion, après les valeurs morales. Tu dois tout d'abord commencer à rechercher une personne pieuse, puis ensuite, tu regarderas ce qui est lié à la beauté. Car en effet, la beauté, c'est une chose qui a été encouragée de rechercher également dans notre religion. C'est pour cela que la législation a permis à l'homme de regarder la femme avant de se marier avec elle, et ce, afin d'être satisfait de ce qu'il verra de sa beauté. Cependant, tu dois savoir qu'il est important de ne pas te limiter à cela. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a mentionné dans son livre « Rawdatul Muhibbin » tout un chapitre lié à la relation qu'il y a entre la beauté extérieure d'une personne, à son apparence, et sa beauté intérieure. Donc si la personne choisit son conjoint ou sa conjointe pour sa vertu, pour sa beauté intérieure, ses valeurs morales, tout ceci embellira son apparence. Mais s'il choisit son conjoint ou sa conjointe pour sa beauté apparente, sa beauté extérieure, mais que la personne n'est pas vertueuse, qu'elle commet des péchés, qu'elle a un mauvais comportement, une mauvaise moralité, tout ceci te fera oublier la beauté apparente. Et de la même manière que l'homme, la femme, elle ne doit agréer de se marier qu'avec un homme vertueux. Et si elle trouve un homme vertueux, elle ne doit pas le délaisser, ne pas le négliger. Et celui qui a sous sa responsabilité une femme, le tuteur, il doit chercher pour les filles qui sont sous sa responsabilité des hommes vertueux. Ce n'est pas tout homme qui convient pour le mariage, pour ta fille, ou pour ta sœur, ou pour celle qui est sous ta responsabilité. Et parmi les choses attristantes que l'on voit à notre époque, il y a le fait que certains responsables ou certains tuteurs, lorsque quelqu'un se présente pour demander en mariage sa fille par exemple, il va commencer par l'interroger sur quoi? Sur les aspects mondains, les aspects financiers. Il va l'interroger sur son travail, il va l'interroger sur les biens qu'il possède, est-ce qu'il a une maison, est-ce qu'il a une voiture, et autres questions semblables. Et si le prétendant a une maison, qu'il a un bon travail, un bon salaire, il va lui donner sa fille en mariage, parfois même sans se pencher sur l'aspect religieux, sur sa moralité. Et ceci est un grave manquement vis-à-vis de sa fille ou de cette femme qui est sous sa responsabilité. Car le fait de questionner sur ces choses-là, c'est une chose dans laquelle il n'y a pas de mal en soi. Toutefois, cela doit venir après la question sur la religion et sur la moralité de la personne. Donc la base pour l'homme, lorsqu'il recherche une femme, c'est de regarder sa religion. Et il doit mettre la beauté après la religion. Et la base pour la femme et pour les tuteurs, lorsqu'ils recherchent un époux, c'est de regarder la religion de l'homme et de mettre l'aspect financier, l'aspect mondain, après ce qui est lié à la religion. Également, parmi les préceptes importants qui font partie de cette base pour la fondation d'une famille heureuse, il y a le fait que les époux connaissent les droits et les devoirs qu'ils ont l'un envers l'autre. Il est indispensable que chacun des époux connaisse ses devoirs envers son conjoint. Et on voit à travers cela l'importance de l'apprentissage de la science religieuse. Et parmi les erreurs que font certains de nos frères et sœurs, il y a le fait que lorsqu'ils cherchent à se marier, ils ne s'enquièrent pas à ce sujet. Ils ne lisent pas de livres sur les règles du mariage, ils n'écoutent pas de cours sur les règles du mariage et ainsi de suite. Tout ceci, ce sont des choses qui doivent précéder ton mariage, afin que tu te maries sur de bonnes bases, que tu connaisses tes droits et surtout que tu connaisses tes devoirs. Qu'est-ce qu'il va t'incomber une fois que tu seras marié? Qu'est-ce qu'il va t'incomber envers ta femme? Qu'est-ce qu'il va t'incomber envers ton mari? Qu'est-ce qu'il va t'incomber envers tes enfants et ainsi de suite? Tout ceci, ce sont des choses qu'il convient de faire précéder au mariage. Mais si ce n'est pas le cas, il est toujours temps de rattraper cela et de faire des efforts afin d'apprendre à connaître ses devoirs. L'épouse, elle doit connaître le droit immense que son mari a sur elle. Et parmi ses droits, le fait qu'il est obligatoire pour elle de lui obéir selon l'avis prépondérant des gens de science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi et qu'a authentifié l'imam al-Albani rahimahum allahu ta'ala, il a dit sallallahu alayhi wa sallam: si j'avais ordonné à une personne de se prosterner pour une autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son époux. Ce hadith, il nous montre le droit immense de l'homme sur sa femme. Et ce, en contrepartie du fait qu'il dépense pour elle, qu'il subvient à ses besoins, qu'il la protège, qu'il l'honore, qu'il l'oriente et qu'il s'occupe d'elle d'un point de vue mondain et également d'un point de vue religieux. Et l'obéissance qui est obligatoire pour l'épouse, c'est le fait qu'elle s'occupe des travaux domestiques dans la maison de son mari. Également, parmi les devoirs de l'épouse envers son époux, il y a le fait qu'elle réponde à ses demandes en ce qui concerne les relations intimes. Également, parmi les devoirs de l'épouse, il y a le fait qu'elle ne sorte pas de la maison de son mari si ce n'est avec sa permission. Et qu'elle ne laisse rentrer personne dans la maison de son époux si ce n'est avec sa permission. Donc ici, je ne vais pas mentionner l'ensemble des droits et des devoirs, mais on donne juste un aperçu concis sur ce sujet. Et il est obligatoire pour la femme de s'affranchir de ses devoirs vis-à-vis de son époux, tout en étant satisfaite de faire cela, et en se rappelant qu'elle le fait pourquoi ? Pour rechercher la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il ne convient pas à la femme de faire cela en se plaignant. Car si elle fait cela, mais qu'elle se plaint à longueur de journée, ou qu'elle rappelle à son époux ce qu'elle fait pour lui, alors ceci va nuire à leur bonheur et à la stabilité de la relation conjugale. C'est pour cela qu'il convient à la femme de faire cela tout en étant satisfaite de le faire et en se rappelant qu'ainsi, elle obtient la satisfaction de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas permis à la femme de s'opposer à la parole ou à l'ordre de son époux, tant qu'il ne lui ordonne pas une désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, ou à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et si c'est le cas, alors elle ne lui doit en aucun cas obéissance. Et ça, c'est important à souligner. Si un homme ordonne à sa femme une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdite, alors en aucun cas la femme ne doit obéissance à son mari dans cela. Mais elle lui doit obéissance seulement dans le convenable. Également, parmi les choses importantes sur lesquelles doit veiller l'épouse, il y a le fait de respecter son époux devant ses enfants, de ne pas s'opposer à lui, de ne pas mentionner ses défauts, de ne pas le prendre en raillerie, de ne pas médire sur lui devant ses enfants, car tout ceci fera perdre pour les enfants le respect qu'ils ont envers leur père. Et si les enfants ne respectent plus leur père, alors qu'est-ce qu'il va se produire? Ils vont lui manquer de respect, ils vont se révolter contre lui, ils ne se soumettront plus à ses ordres, et ceci sera une cause qui nuira au bonheur et à la stabilité du foyer. Et ces choses-là que l'on vient de mentionner, elles sont également valables pour l'homme. Il ne doit pas mépriser son épouse devant ses enfants, ni médire sur elle, ni la prendre en raillerie, ni lui manquer de respect, et ainsi de suite. Et de la même manière que la femme a des devoirs vis-à-vis de son époux, l'homme a également des devoirs vis-à-vis de son épouse. Il est obligatoire pour l'homme de connaître ses devoirs vis-à-vis de son épouse. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ » Elles ont des droits équivalents à leurs devoirs, conformément à la bienséance. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Et comportez-vous convenablement avec elles. Il n'est donc pas permis à l'homme de faire preuve d'injustice envers son épouse, et de profiter de son rang et de la faiblesse de la femme pour transgresser ses droits. En effet, si Allah subhanahu wa ta'ala a permis à l'homme d'avoir des relations avec la femme suite à l'acte de mariage, il lui a pour cela imposé certaines obligations. Il a des devoirs envers cette femme. Donc, cette femme qui est sortie de la maison de ses parents, pour se rendre dans la maison de son époux, il faut que tu saches, mon frère, que c'est un dépôt au sujet duquel tu auras des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors d'un sermon, durant le pèlerinage d'adieu, il nous a ordonné et recommandé la bienfaisance envers les femmes. Donc, il convient aux hommes de se soumettre à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'à l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam, en ayant un bon comportement et une bonne conduite avec leurs épouses. Et tu dois te comporter avec ton épouse de la meilleure manière. C'est une des personnes qui est le plus en droit de ton bon comportement. D'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant le plus complet en termes de foi est celui qui a le meilleur comportement. Et le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec ses femmes. » Et ce hadith a été jugé bon par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et parmi les droits de l'épouse, il y a le fait que l'homme se doit de subvenir à ses besoins. Et ceci est une obligation d'après les textes du Coran et de la Sunna authentique. Et ce en fonction de sa situation. Qu'il soit riche ou pauvre, il subvient à ses besoins en fonction de cela. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَةِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ Que celui qui est aisé dépense de sa fortune, et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah lui a donné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous avez comme devoir envers elles de subvenir à leurs besoins et de les vêtir de façon convenable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de cela une cause qui fait augmenter la foi du serviteur. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala, d'après Sa'd ibn Abi Waqqas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu ne dépenses pas une chose par laquelle tu recherches le visage d'Allah sans être récompensé pour cela. Puis il lui a dit, même le morceau de nourriture que tu mets dans la bouche de ta femme. Serviteur est récompensé pour cela. Et ceci fait augmenter sa foi. Et l'imam Muslim rahimahullah ta'ala a rapporté d'après Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, un dinar que tu dépenses sur le sentier d'Allah et un dinar que tu dépenses pour affranchir des esclaves et un dinar que tu donnes en aumône à un pauvre et un dinar que tu dépenses pour ta famille, celui pour lequel tu as la plus grande récompense, c'est celui que tu dépenses pour ta famille. Subhanallah. Celui pour lequel tu as la plus grande récompense, c'est celui que tu dépenses pour ta famille. Aujourd'hui, malheureusement, il y a certains hommes, lorsqu'ils sont avec leurs amis, ils sont très généreux. Tu le vois, il va au restaurant, il y a une belle table, il aime dépenser son argent. Mais lorsqu'il est avec sa famille, avec ses enfants, il devient avare. Il compte ses sous, il ne veut pas les dépenser. Et ceci est une grave erreur. Regarde ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a informé que le dinar que tu dépenses pour ta famille, c'est celui pour lequel tu as la plus grande récompense. Une récompense plus grande que s'il est dépensé sur le sentier d'Allah ou en aumône pour un pauvre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le fait de négliger ce devoir. Il a dit, il suffit à l'homme, comme péché, de négliger ceux qui sont sous sa responsabilité. C'est donc une grave erreur de négliger ce point qui est le fait de subvenir aux besoins de l'épouse. Également parmi les droits de l'épouse, il y a le fait que l'homme veille à lui accorder son droit en termes de compagnie et de relations intimes. En effet, il convient à l'homme de veiller à satisfaire son épouse sur ce plan-là. De la même manière que l'homme aime que son épouse s'embellisse pour lui, qu'elle ait de beaux vêtements, une bonne odeur, une belle apparence, il doit en faire de même. Il doit chercher à avoir une belle apparence pour elle et à la satisfaire sur ce plan-là. Et tu ne dois pas te laisser détourner par certaines adorations, comme l'étude de la science ou la prière de nuit, sans même parler des occupations mondaines, comme certaines personnes qui passent leur temps au travail et négligent leurs épouses. Wallahu al-musta'an. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a rapporté dans un hadith que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a établi des liens de fraternité entre Salman et Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhuma. Alors un jour, Salman est venu rendre visite à Abu Darda. Et il a trouvé Darda dans une tenue que l'on pourrait qualifier de négligée. Alors, il l'a interrogée à ce sujet. Elle lui répondit, « Ton frère Abu Darda n'a aucun besoin en ce bas monde. » Alors Abu Darda est venu, et Salman a préparé pour lui de la nourriture. Il lui a dit, « Mange. » Abu Darda lui a dit, « Je jeûne. » Alors Salman lui a dit, « Je ne mangerai pas tant que tu ne mangeras pas. » Alors Abu Darda a mangé. Puis lorsqu'il est venu la nuit, Abu Darda allait se lever pour prier. Salman lui a ordonné de dormir. Il a alors dormi. Puis, un moment après, il allait se lever pour prier. Alors Salman lui a encore ordonné de dormir. Puis, lorsqu'est venue la fin de la nuit, Salman lui a dit « Lève-toi maintenant ». Puis ils ont tous les deux prié. Ils ont tous les deux accompli la prière en fin de nuit. Ensuite Salman lui a dit « Certes, ton Seigneur a un droit sur toi. Ton âme a un droit sur toi. Et ta famille a un droit sur toi. Donne donc à chacun son droit. » Alors, Abu Darda radiallahu ta'ala anhu est parti mentionner cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Salman a dit vrai ». Dans un autre hadith, rapporté également par l'imam al-Bukhari rahimahullah, d'après Aïcha radiallahu ta'ala anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Khawayla bint Hakim al-Sulamiyya est entrée chez moi et elle était mariée à Uthman ibn Maz'un radiallahu ta'ala anhum. » Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a remarqué qu'elle n'avait pas une belle apparence. Et il a interrogé Aïcha à ce sujet. Alors Aïcha lui répondit, « Ô messager d'Allah, c'est une femme qui n'a pas d'époux. Il jeûne la journée et il prie la nuit. Elle est donc comme une femme qui n'a pas d'époux et elle a délaissé et négligé sa propre personne. » Ensuite Aïcha radiallahu ta'ala anha a dit, « Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce que vienne Uthman ibn Mad'un. Puis il lui a dit « Oh Uthman, te détournes-tu de ma sunnah ?» Alors Uthman lui a répondu « Non par Allah, au messager d'Allah, mais c'est plutôt ta sunnah que je recherche. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Certes, je dors et je prie, je jeûne et je romps, et je me marie avec les femmes. Crains Allah, Uthman, ta famille a un droit sur toi, ton hôte a un droit sur toi, et ton âme a un droit sur toi, jeûne et romps, prie et dors. » On voit à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé cet homme qui a négligé sa famille au profit de quoi? Au profit du jeûne et de la prière de nuit. Alors que dire d'un homme qui néglige sa famille au profit de choses mondaines, ou au profit de choses futiles, ou pire encore, au profit de choses interdites? Wallah al-musta'an. Ceci était donc un bref aperçu des droits et des devoirs des époux l'un envers l'autre. La troisième base de la fondation d'une famille heureuse, c'est l'éducation des enfants de manière correcte. Et ceci fait partie des choses les plus importantes et en même temps les plus difficiles. En effet, il n'est pas possible pour les époux de donner une bonne éducation à leurs enfants si ce n'est en s'entraidant dans cela. Et l'éducation des enfants, elle est de deux sortes. Il y a une éducation qui concerne les choses innées, celles que l'homme fait instinctivement. Et cette éducation, le croyant et les mécréants sont capables de s'en charger. L'obéissant et le pervers, celui qui a appris et celui qui est ignorant. Et même les animaux sont capables de donner cette éducation à leurs enfants. Comme le fait que la femme allaite son enfant, qu'elle s'occupe de lui, que le père dépense pour son enfant, le protège, le nourrisse, et ainsi de suite parmi les choses qui sont instinctives chez l'homme. Le deuxième type d'éducation, c'est celle qui est visée par ce point et qui est le plus importante. C'est l'éducation religieuse. C'est le fait de te soumettre aux orientations religieuses dans l'éducation des enfants. Et entre dans cela le fait, par exemple, que la personne veille à ne nourrir ses enfants que du halal, que de choses licites, et ce, dès leur plus jeune âge. Il n'est pas permis pour le père de nourrir ses enfants de manière illicite. En effet, dans le haram, il n'y a aucune baraka, et c'est une chose nuisible pour la personne ainsi que pour ses enfants. Entre également dans l'éducation de l'enfant de manière religieuse le fait que dès son plus jeune âge, tu lui apprennes à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui apprends le sens de la parole du tawhid, la ilaha illallah. Tu lui fais répéter, l'attestation de foi, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Tu lui apprends à avoir foi en l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah est au-dessus des cieux. Et également, tu lui apprends à aimer Allah subhanahu wa ta'ala, en lui rappelant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé de nombreux bienfaits qu'il n'est pas possible pour nous de recenser. Également, il est important que tu apprennes à tes enfants
à avoir sans cesse conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala les observe. Tu leur enseignes la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, à s'éloigner des interdits d'Allah et à se soumettre à ses ordres tout en recherchant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, tu leur enseignes l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour nous sortir de l'obscurité de la mécréance à la lumière de la foi. Également, tu leur enseignes l'amour des sahaba radiyallahu ta'ala anhum, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ce sont eux qui nous ont transmis cette religion et qui ont soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort. De la même manière, tu leur enseignes l'amour des mères des croyants, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'amour des gens vertueux. Bien ensuite, après cela, une fois que l'enfant atteint l'âge de 7 ans, l'enseignement de la prière, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Une fois que l'enfant a 7 ans, il est obligatoire pour ses parents de lui ordonner la prière. Et entre dans cela le fait de lui apprendre les règles de la prière, et avant cela, les règles de la purification. Donc ceci fait partie des choses essentielles à la fondation d'une famille heureuse. En effet, comment pourrait trouver le bonheur une famille qui néglige ses enfants, qui ne leur donne aucune éducation religieuse, qui abandonne ses enfants devant la télé ou les jeux vidéo, ou autre chose nuisible pour l'épanouissement de l'enfant? Il n'y a pas de doute que ceci est une erreur dans laquelle sont tombés bon nombre de parents, Wallah al-musta'an. Et je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, car, comme je l'ai déjà dit hier, ce sera un des sujets qui sera abordé dans la conférence de mardi soir, inshallah ta'ala, concernant les droits des enfants. Enfin, la quatrième base que l'on va citer aujourd'hui pour la fondation d'une famille heureuse, c'est que tu saches que même si tu veilles à accomplir tout cela de la meilleure manière, tu dois savoir que dans ce bas monde, le bonheur n'est pas constant. Il n'est pas continuel. Il est inévitable pour le croyant d'être éprouvé ici-bas. Et parmi les épreuves par lesquelles peuvent être touchés l'homme et la femme, il y a les mésententes qui peuvent survenir au sein du foyer et qui peuvent entraîner certains conflits conjugaux. Et ce sujet, je ne vais pas le développer ce soir, car c'est le sujet du cours de mercredi soir, dans lequel nous allons parler des causes des conflits conjugaux et de leurs remèdes. Mais ici, je souhaitais tout de même vous rappeler que ceci fait pleinement partie de la vie conjugale. Et le bienheureux, c'est celui qui s'est patienté face à cela et qui sait régler ses mésententes et ses conflits d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala en revenant aux règles mentionnées dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et tu dois savoir que chaque problème a sa solution. Car il n'y a pas un bien sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'ait indiqué et il n'y a pas un mal sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait averti contre celui-ci. Ceci était donc certaines bases pour la fondation d'une famille heureuse. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider ainsi que vous à la mise en pratique de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.